Terroir Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 6 novembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
La ministre française des Armées, Florence Parly, annonce l'envoi de forces spéciales européennes en soutien au Mali en 2020.
République démocratique du Congo, un rapport de l'ONU propose un retrait des casques bleus de la MONUSCO sur 3 ans.
Possible coopération accrue entre Washington et Mexico contre les gangs armés dans le nord du Mexique après le meurtre de membres d'une communauté de mormons américains dans la région.
L'affaire ukrainienne, un proche du président Donald Trump reconnaît avoir lié une aide militaire américaine à Kiev à une enquête sur l'ancien vice-président Joe Biden et son fils Hunter.
Téhéran a relancé les activités d'enrichissement d'uranium gelé dans le cadre de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, où elle était en visite, la ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé hier que des forces spéciales, mises à disposition par des pays européens, devraient être déployées dans le pays en 2020. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'unité s'appellera Takuba, sabre en tamashek, langue touareg, en écho au nom de la Task Force Sabre des forces spéciales de l'opération Barkhane au Mali. Florence Parly a précisé qu'une dizaine de pays européens sollicités ont donné des retours positifs. Devant les soldats de Barkhane à Gao, elle a précisé que dès 2020, ces forces spéciales des pays européens seront déployées au Mali aux côtés des forces spéciales françaises pour transmettre un savoir-faire d'exception aux unités maliennes. Son déplacement à Gao a été tenu secret jusqu'au dernier moment. Sa tournée au Sahel a été assombrie par la mort d'un soldat français samedi dans l'explosion d'une bombe artisanale. Cette attaque a été revendiquée par le groupe État islamique, tout comme celle du vendredi où 49 soldats maliens ont été tués près de la frontière avec le Niger. Un mois plus tôt, 40 soldats maliens avaient trouvé la mort dans une double attaque à Bolkesi et Mondoro près de la frontière avec le Burkina Faso.
Florence Parly a par ailleurs annoncé à l'AFP que les forces françaises ont tué début octobre au Mali le Marocain Abou Abderrahmane Al-Maghrebi, alias Ali Maïchou, considéré comme le numéro 2 et leader religieux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, organisation djihadiste reliée à Al-Qaïda. Selon la ministre française des Armées, le djihadiste a été tué dans la nuit du 8 au 9 octobre en coordination avec les forces maliennes et en soutien américain, a-t-elle précisé, dans l'avion qu'il a ramené d'une tournée dans plusieurs pays de la région du Sahel où quelques 4500 militaires français sont déployés dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane.
La force de casque bleu en République démocratique du Congo pourrait être retirée progressivement sur 3 ans, sous condition pour les autorités de respecter plusieurs paramètres. C'est ce qu'a proposé dans un rapport onusien remis récemment au Conseil de sécurité. Obtenu par l'AFP, ce document fait suite à une évaluation stratégique de la mission demandée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le Conseil de sécurité, appelé en décembre à renouveler sa mission MONUSCO, doit en discuter prochainement.
Au Zimbabwe, des dizaines de médecins ont été suspendus par les autorités pour leur participation à une grève qui paralyse les hôpitaux publics depuis plus d'un mois. Le point avec Eric Manirakidza.
Sur les 80 médecins poursuivis, 77 ont été reconnus coupables et révoqués, a déclaré hier la ministre de l'Information, Monica Mchangwa. Les médecins du secteur public ont cessé le travail depuis le début du mois d'octobre pour exiger une revalorisation de leur salaire qui ne dépasse plus l'équivalent d'une centaine d'euros par mois. Ils ont rejeté toutes les hausses proposées par le gouvernement qui a obtenu de la justice qu'elle déclare leur grève illégale et leur ordonne de reprendre le travail. Face à leur refus, les autorités ont engagé ces procédures disciplinaires. Les fonctionnaires zimbabwéens, qui exigent eux aussi une revalorisation de leur salaire, ont à leur tour appelé à manifester aujourd'hui à Harare, la capitale. Le Zimbabwe est plongé dans une grave crise, marquée par un taux de chômage de 90% et des pénuries de produits alimentaires, de carburant et de médicaments.
Au Malawi, de violents affrontements ont opposé des chrétiens et des musulmans après le refus d'une école anglicane d'accueillir des jeunes filles portant le voile islamique. Des détails avec Yakuba Ouedraogo.
Deux personnes ont été hospitalisées à l'issue de ces heurts survenues lundi dans le district de Balaka, dans le sud-est du pays. Parmi elles figure un chef religieux musulman. Les violences ont opposé pendant plusieurs heures chrétiens et musulmans, causant d'importants dégâts dans des écoles, des maisons et une mosquée du district, selon Joseph Asauka, un responsable provincial de la police. Le calme est revenu hier dans la région. Le porte-parole de la communauté musulmane Dinala Chabulika a attribué la responsabilité des incidents au refus de l'église anglicane d'accepter des fillettes voilées dans l'école, alors que le gouvernement interdit toute discrimination envers les enfants portant des signes religieux. Les deux tiers des 19 millions de Malawites se disent de confession chrétienne. Les incidents entre communautés religieuses sont très rares au Malawi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'affaire ukrainienne, l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne a dit aux enquêteurs de la Chambre des représentants qu'il en était arrivé à croire que l'aide militaire de quelques 400 millions de dollars ne serait pas débloquée si Kiev n'annonçait pas publiquement l'ouverture d'une enquête pour aider politiquement le président Donald Trump. L'ambassadeur Gordon Sondland est revenu sur son témoignage de mi-octobre.
Il a affirmé avoir rencontré le 1er septembre à Varsovie un proche collaborateur du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour lui signifier qu'il ne fallait pas s'attendre à cette aide américaine en l'absence de la déclaration publique contre la corruption dont il discutait depuis des semaines. Les démocrates de la Chambre basse ont lancé une enquête sur une éventuelle procédure de destitution du président Trump, accusé d'avoir tenté d'utiliser cette aide pour obtenir une enquête sur un possible rival démocrate en 2020, l'ancien vice-président Joe Biden et son fils Hunter. M. Trump le dément et parle de chasse aux sorcières.
L'Iran a annoncé la reprise de ses activités d'enrichissement d'uranium jusque-là gelé. Téhéran réduit ainsi ses engagements internationaux en matière nucléaire. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
La mesure dévoilée par le président Hassan Rouhani survient au lendemain de l'expiration de délai donné par Téhéran à ses partenaires dans l'accord conclu à Vienne en 2015 pour que ces derniers l'aident à contourner les conséquences du retrait des États-Unis de ce pacte. L'Iran va reprendre les activités d'enrichissement d'uranium de son usine souterraine de Fordow au sud de Téhéran qu'il avait gelé en vertu de l'accord de Vienne, a indiqué M. Rouhani. Conformément à ce texte, l'Iran dispose à Fordow de 1044 centrifugeuses de première génération IR1 qui tournent à vide ou sont à l'arrêt. À partir de demain, nous commencerons à injecter du gaz à Fordow, a annoncé Hassan Rouhani, faisant référence au procédé utilisé pour produire de l'uranium enrichi à partir de ces machines. Le Kremlin dit comprendre les inquiétudes de la République islamique face aux sanctions américaines. À la tête de la diplomatie européenne, Federica Mogherini a exhorté l'Iran à ne pas prendre de nouvelles mesures qui mineraient davantage ce pacte et rendrait encore plus difficile son sauvetage.
Le Mexique et les États-Unis pourraient s'entendre pour une coopération accrue contre les gangs armés qui ont apparemment pris en embuscade les membres d'une communauté de mormons américains, massacrant 9 d'entre eux, 3 femmes et 6 enfants. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Le président Trump a demandé au Mexique de déclarer la guerre au cartel de la drogue qui sévise dans le secteur, écrivant dans un tweet « Si Mexico a besoin ou demande de l'aide pour se débarrasser de ces monstres, les États-Unis sont prêts à faire le travail avec rapidité et efficacité. » Son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador, avec lequel il a eu un entretien téléphonique, a remercié M. Trump tout en soulignant qu'il fallait examiner de quelle façon il serait possible d'aider, tout en veillant au respect de la souveraineté mexicaine, comme les États-Unis le font et comme d'autres pays le font. Il a cependant estimé que le pire qui puisse arriver, c'est la guerre, en allusion au tweet de M. Trump. Le Mexique bénéficie déjà d'une vaste assistance sécuritaire américaine sous la forme notamment de l'initiative Mérida, qui a permis le versement de 1,8 milliard de dollars depuis 2008 pour combattre le trafic de drogue, la criminalité et l'impunité qui sévissent dans le pays. La situation à la frontière nord du Mexique ne cesse d'empirer, avec 25 890 morts depuis le début de l'année au Mexique. Un nouveau record de violence pourrait être battu en 2019.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
Le Cameroun a été le premier fournisseur de bois scié au Royaume-Uni au cours des 6 premiers mois de l'année en cours, révèle l'Organisation internationale des bois tropicaux. Il a exporté 9 080 tonnes, soit une hausse de 23,4%. Parmi les importants fournisseurs africains figure aussi la République du Congo, dont les exportations vers le Royaume-Uni se sont élevées à 5 690 tonnes, soit une croissance de 22,8%. Le groupe pétrolier national sud-africain Petrosa et la société géologique russe Rosgeologia sont en pourparlers pour finaliser un contrat de 359 millions de dollars visant à permettre à la Russie de prendre pied pour la première fois dans un champ de pétrole et de gaz situé au large de l'Afrique du Sud. Petrosa espère que le rapprochement avec Rosgeologia et d'autres partenaires accéléreront l'exploration de la superficie qu'elle détient. Pour terminer, le groupe français Total envisage d'étendre son projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique avec 2 trains supplémentaires pour faciliter le transport. Total a finalisé l'acquisition de 26,5% des parts d'Anadarko dans le projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique pour un montant de 3,9 milliards de dollars en septembre.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Qualification historique pour un club béninois en Coupe CAF.
Oui, les AEFC s'est qualifié pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération en sortant Génération Foot du Sénégal, victorieux à l'aller 1-0 à Thiès. Les Béninois partaient avec les faveurs des pronostics, mais ont concédé le même score au retour, s'inclinant 0-1 à domicile. 1-1 donc sur l'ensemble des 2 matchs. C'est finalement à la séance des tirs au but qu'Esaü l'a remporté avec 4 tirs réussis contre 3. Esaü est du même coup le dernier club qualifié pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Il rejoint ainsi Oroya de la Guinée, Al-Nasr, Al-Masri, Nouadhibou, Enimba, Zanaco, DC Motoma Pembe, Enugu Rangers, Bidvest Wits, Joliba AC, FC San Pedro, Berkane, Pyramide FC, Hassania Agadir et Paradou. Le tirage au sort aura lieu le 10 novembre prochain.
Abandon des poursuites contre le président de la Fédération nigériane de football.
La haute cour de justice d'Abuja a abandonné les poursuites contre Amadou Pinnick et 4 de ses collègues dans une affaire de corruption. Ils étaient sous le coup de 17 chefs d'accusation dont l'omission de déclaration d'actifs et le détournement de 8,4 millions de dollars versés à l'instance nationale par la FIFA pour la participation du Nigeria au Mondial 2014. En septembre, le gouvernement a dissous l'agence anticorruption en charge de cette enquête. Toutefois, cette décision ne met pas fin aux ennuis judiciaires des dirigeants de la NFF. Pinnick et son secrétaire général Mohamed Sanoussi et 3 de ses comptables ont été accusés d'un vol présumé de plus de 10 millions de dollars de subventions de la FIFA et de la CAF destinées au développement du football nigérien.
Le Barça a été contraint au nul hier en Ligue des Champions.
Après sa lourde défaite à Levante samedi 3-1 en championnat, le FC Barcelone a patiné chez lui contre le Slavia Prague 0-0 et s'enfonce dans une mauvaise passe. Le Zénith Saint-Pétersbourg a perdu 0-2 face au RB Leipzig. À suivre aussi entre autres matchs ce soir, Real Madrid Galatasaray, Lokomotiv Moscou Juventus Turin, le PSG reçoit le club Bruges, l'Atalanta Bergame Manchester City, Tottenham se déplace sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade.
Carlos Vela est le meilleur joueur en MLS.
Oui, l'international mexicain, meilleur buteur de la MLS avec le Los Angeles FC, 36 buts, a reçu le trophée de meilleur joueur 2019 des championnats nord-américains de football devant le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Carlos Vela, 30 ans, a été honoré au cours d'une cérémonie organisée à Los Angeles. Grâce à ses 2 buts et une passe décisive, le Los Angeles FC a battu les Los Angeles Galaxy en playoff, mais l'équipe de Vela s'est inclinée en finale de conférence ouest devant les Seattle Sounders 3-1 et ne disputera pas la finale du championnat le 10 novembre à Seattle. Nous restons ici aux États-Unis pour parler de basketball avec vous Idrissa, des résultats de la nuit dernière en NBA.
Charlotte bat de justesse Indiana 122 à 120. Cleveland succombe à Boston 119 à 113. Atlanta bat San Antonio 108 à 100. Victoire des LA Lakers sur Chicago 118 à 112. Oklahoma City bat Orlando 102 à 94 et Denver massacre Miami 109 à 89.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sebudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée-Bissau, 12 candidats battent campagne en vue de l'élection présidentielle prévue le 24 novembre. Le président José Mario Vaz a limogé le premier ministre Aristide Gomes, qui refuse de partir parce que soutenu par la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU. Le président a nommé un autre premier ministre, ce qui fait que le pays a de facto deux gouvernements. Idriss Fall a joint à Bissau Khalifa Suarez Gassama, coordonnateur national du mouvement pour l'alternance démocratique au MADEM, un parti d'opposition.
La campagne a commencé le samedi dernier. On a 12 candidats, 3 anciens premiers ministres, Oumarou Cissé-Kouen Mbalo, Domingo Simon Frera et Bassirou Dia. José Mario Vaz, il est candidat à son succession. Des autres candidats comme Afonso Souté, ancien vice-chef d'état-major général de l'armée du Sahel-Guinéen. L'actuelle situation politique, l'actuelle tension politique, ça fait que la campagne ne brûle pas normalement.
Comment est-ce qu'on a réglé la question politique? Parce que Aristide Gomes, le premier ministre voulu par la CEDEAO, ne voulait pas démissionner. Le président a nommé un autre premier ministre. Quel est le gouvernement qui organise ces élections-là?
En tout cas, le gouvernement d'Aristide Gomes est toujours en fonction. Ils sont en place. Que c'est Aristide Gomes qui est en train de travailler au palais de gouvernement, c'est le cabinet officiel du premier ministre. Les autres membres du gouvernement libérés par Fassine Mbali, le président Mario Vaz, qui a donné des fonctions la semaine dernière, ils ont tous en attendant l'évolution de la situation. Le président de la République a convoqué hier une réunion de la Conseil national de défense. C'est un organe qui décide par rapport à la situation liée aux défenses et à la sécurité. On attend toujours si la force, l'armée et la sécurité du Sahel vont prendre les indications du président de la République pour mettre l'ordre au pays, comme le président même dit qu'il y a une situation de désordre et de désobéissance par rapport à son décret présidentiel qui est le mesure du premier ministre Aristide Gomes et qui menait à Fassine Mbali comme premier ministre.
Donc ce n'est pas sûr qu'on aura des élections le 24 novembre alors?
Au présent, officiellement, la date pour les élections c'est le 24 novembre. Même le président de la République a dit que les élections doivent être réalisées le 24. Le premier ministre indiqué, Fassine Mbali, a dit que l'objectif, c'est d'organiser les élections à la date prévue, c'est-à-dire le 24 novembre prochain.
Et l'armée dans tout ça, elle ne dit rien pour le moment?
Non, l'armée est toujours sur les casernes, où ils ont connu. Ils n'ont rien avec les politiques. Mais en tout cas, la tension est à haut. On attend l'évolution de la situation par rapport à cette situation-là. Le président était réuni avec l'armée. Ni le président de la République, ni l'état-major général de l'armée prononçaient quelque chose par rapport à la réunion d'hier.
Khalifa Suarez Gassama, coordonnateur national du mouvement pour l'alternance démocratique, un parti d'opposition en Guinée-Bissau.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la crise politique en Guinée-Bissau. Alors que le pays doit se rendre aux urnes le 24 novembre pour élire un nouveau président, le chef de l'État, José Mario Vaz, a limogé son premier ministre, Aristide Gomes, qui, fort du soutien de la CEDEAO, refuse de partir. Une situation qui fait craindre le pire pour ce pays qui a vécu plusieurs coups et tentatives de coup d'État depuis son indépendance. Pourquoi cette crise politique au sommet perdure? Quel est le rôle de l'armée dans cette crise? Qu'en est-il de la médiation de la CEDEAO? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
La crise dans le nord et le centre du Mali a engendré beaucoup de victimes. Malgré l'arrestation de quelques auteurs présumés, la justice malienne n'arrive pas à rendre justice. Les associations des droits de l'homme travaillent pour appuyer les pouvoirs publics et la communauté internationale afin de trouver une solution rapide au problème. Kadiatou Traoré a reçu dans nos studios Bintou Founé Samake Boiré, présidente du WILDAF Mali et membre du réseau des défenseurs des droits de l'homme.
Mon association s'occupe surtout des femmes et des femmes victimes de violences sexuelles. Pour l'accès de ces femmes à la justice, plusieurs mécanismes ont été développés par le gouvernement du Mali mais aussi par la communauté internationale. Le gouvernement du Mali a tout d'abord mis en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et cette commission avait pour mandat de pouvoir vraiment enregistrer toutes les victimes qui venaient à elle et de pouvoir faire la part des choses. Nous, à notre niveau aussi, nous avons fait le monitoring des violences sexuelles. Et aujourd'hui, ma structure a enregistré plus de 174 cas de femmes victimes de violences sexuelles. Et sur ces 174 cas, il y a 43 cas qui ont été portés devant les juridictions.
Alors, si je comprends bien, ces victimes-là attendent toujours d'être
rétablies dans leurs droits.
Il y a des voix qui se lèvent à l'extérieur ou même avec les organisations de défense des droits humains internationales disant qu'il y a trop de problèmes. Ils prennent des gens, après on les libère, on les emprisonne, on les libère. Alors, qu'est-ce que vous faites pour que ce processus puisse vraiment voir le jour rapidement et que les victimes puissent être rétablies dans leurs droits?
Bon, ce que nous faisons déjà, nous essayons d'utiliser les mécanismes qui sont en place. Le gouvernement du Mali avait mis en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Mais en plus de ça, le gouvernement du Mali a mis également en place le pôle antiterroriste. Et la question des violences sexuelles était reconnue par ce pôle comme des infractions connexes aux actes de terrorisme.
Mais le constat est que c'est trop lent. Qu'est-ce qui bloque?
Bon, qu'est-ce qui bloque, c'est que les institutions judiciaires ne sont pas très aptes à pouvoir juger de ces cas-là.
Pourquoi?
Parce que soit ils ont des faiblesses institutionnelles, soit ils sont en face d'insuffisance de moyens pour connaître de ces violations. Et aujourd'hui, nous sommes en face à la préparation d'un procès qui est au niveau de la CPI. Les choses sont en train de s'accélérer et nous pensons que très bientôt, ce procès se déroulera et les victimes du Mali participeront à ce procès pour faire valoir leurs droits.
C'était Madame Bintou Founé Samake Boiré, présidente de WILDAF Mali.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Sur une population mondiale estimée à 1 milliard de personnes souffrant d'un handicap physique, mental ou psychologique, il y aurait 93 millions d'enfants. En République démocratique du Congo, par exemple, beaucoup d'enfants se retrouvent dans la rue ou dans des orphelinats, en l'absence de structures d'accompagnement. À Lubumbashi, il y a une seule école qui accueille les enfants souffrant d'autisme. Reportage de Salwa Jafari, réalisé avec notre partenaire radio-télévision Mwangaza à Lubumbashi.
Caribou, 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 vous êtes les bienvenus. Caribou. Ben, c'est la pédagogie du jeu, hein. Voilà. Nous avons 16 pathologies en tout.
Voilà, très bien.
Ce sont des occasions que nous donnons aux enfants de pouvoir s'exprimer parce qu'on les connaît mieux quand ils jouent que quand ils sont en classe. Alors c'est comme ça qu'on les initie un peu à tout. Mais en même temps, c'est thérapeutique. Ça nous permet de pouvoir guérir la dextérité digitale.
Oui. À la place du nid et à se réunir, le temps c'est un coup. Oh, j'ai la main.
Nous encadrons 195 personnes vivant avec handicap mental, donc des besoins particuliers. Et ils sont catégorisés en 16 pathologies, dont la majorité est trisomique 21 et autiste. Et l'âge, il varie entre 1 et 60 ans.
D'entrée de jeu, dès qu'un enfant arrive, la toute première des choses, on commence par une consultation. Et c'est à l'issue de la consultation qu'on sera déterminé les difficultés de l'enfant et c'est à partir des difficultés qu'on aura maintenant à établir un projet thérapeutique. Ce sont les difficultés de l'enfant qui nous vont nous permettre de pouvoir adopter la méthode pour pouvoir l'accompagner selon ses difficultés.
La société a difficile à accepter les genres d'enfants. Les enfants qui ont chacun ces manques de pourcentage, je reviens encore, de pourcentage en lui. Donc en général, la société rejette un peu, repousse ces genres d'enfants. Mon fils, c'est... D'abord, c'est un enfant très merveilleux.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Ici aux États-Unis, les Africains américains ont depuis longtemps joué un rôle dans la culture des cowboys, même si leur histoire n'est pas souvent bien connue. La tradition continue. Reportage à Memphis dans le Tennessee d'Arturo Martinez, repris ici par Lionel Gahima.
Bonjour à Denise Tyus, un cowgirl afro-américaine qui a participé à des rodéos pendant presque toute sa vie adulte. Nous lui parlons du sport, du rôle que les afro-américains ont joué dans le Far West et l'accompagnons pendant qu'elle participe au rodéo.
Je m'appelle Denise Tyus, je participe au rodéo. C'est un événement compétitif qui vous donne une telle poussée d'adrénaline. C'est comme être high sans drogue. C'est une bonne chose, vous jouez dans la terre, mais c'est un amusement sain et propre que toute la famille peut apprécier. J'y ai vécu presque toute ma vie avec le rodéo. En fait, je n'ai pas commencé la compétition avant d'avoir grandi, mais mes enfants ont grandi avec. Cela nous a aidé à enseigner à nos enfants comment être responsables et se fixer des objectifs. C'était vraiment une très bonne chose. Cela leur a épargné pas mal d'ennuis. Et bien sûr, ma nièce, elle vient ici depuis peu et j'essaie de lui donner quelques conseils.
Ce week-end, le Bill Pickett Invitational Rodeo se rend à Memphis, au Tennessee. C'est juste un événement qui représente le cowboy et la cowgirl de la communauté afro-américaine.
Eh bien, mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à regarder vos cowboys et cowgirls samedi soir en direct?
Denise Tyus n'a pas gagné, mais elle est contente. Quant au cowboy Daniel Henderson...
Ça s'est plutôt bien passé, vous savez. J'ai obtenu la victoire dans la lutte de direction. Finalement, tout s'est mis en place. Le cheval a bien travaillé et a eu un bon guidage. Si on fait mon travail à temps plein maintenant. Donc c'est un moyen difficile de gagner sa vie, mais j'aime ça. Alors je ne peux penser à rien d'autre que je préférerais faire.
L'expérience des Noirs américains dans le rodéo est souvent méconnue, mais elle demeure importante et la tradition continue.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en monde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.